Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « L'amitié », aussi connu sous le titre latin « Laelius de Amicitia », est un dialogue philosophique de Cicéron composé en 44 avant notre ère. Dans les derniers mois de sa vie publique, cette édition français-latin permet de suivre à la fois la traduction et la formulation originale de ce texte, bref mais central dans la pensée morale romaine. Le dialogue se situe en 129 avant notre ère et confie à Laelius, marqué par la mort de Scipion Émilien, une réflexion sur la nature, les exigences et les épreuves de la vraie amitié. Cicéron ne propose pas un manuel de sociabilité. Il examine un lien fondé sur la vertu, la confiance, la franchise et la stabilité du jugement. Les relations privées sont cependant inséparables de la vie civique, car une amitié digne ne peut justifier ni injustice ni abandon du bien commun. Nourri de philosophie grecque et ancré dans les usages politiques romains, le traité associe analyse morale, expérience humaine et idéal républicain. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la vertu comme condition non négociable de la véritable amitié. Le principe directeur du dialogue est que la vraie amitié ne se forme pleinement qu'entre des personnes de bien. Cicéron ne veut pas dire que seuls des êtres moralement parfaits peuvent avoir des amis. Il soutient plutôt que la relation durable exige une orientation commune vers la justice, la loyauté et la mesure. Sans cette base, ce qui ressemble à une amitié risque de n'être qu'une alliance de circonstances, un échange de services ou une complicité dans des conduites répréhensibles. Cette thèse explique le rang exceptionnel accordé à la sagesse, seule valeur que Cicéron place au-dessus de l'amitié. L'affection est précieuse, mais elle doit être guidée par le discernement moral. Le texte refuse donc une conception sentimentale selon laquelle aimer un ami imposerait de tout accepter de lui. Un ami authentique ne demande pas un acte indigne et ne consent pas à le commettre pour conserver une relation. Cette limite donne à l'amitié sa force éthique. Elle protège chacun contre la dépendance, la flatterie et les fidélités aveugles. Cicéron transforme ainsi une expérience intime en exercice de caractère. La qualité de la relation dépend moins de l'intensité déclarée des sentiments que de la capacité réciproque à vouloir et à pratiquer ce qui est honorable. Deuxièmement, le refus d'intérêt comme origine suffisante du lien amical, Cicéron distingue avec soin les avantages que l'amitié procure de la raison pour laquelle elle naît. Un ami apporte soutien, conseil, joie et secours dans les moments difficiles. Pourtant, réduire le lien à ses bénéfices revient à le rendre fragile, puisque tout changement de fortune peut alors le dissoudre. La vraie amitié procède selon lui de l'estime pour la personne et d'une inclination naturelle vers la bienveillance, non d'un calcul préalable. Cette position répond aux doctrines qui expliquaient principalement les affections humaines par la recherche du plaisir ou de utilité. Cicéron ne nie pas que les amis se rendent service. Il affirme que l'utilité est une conséquence normale de l'attachement véritable et non son fondement légitime. La distinction a une portée concrète. Elle invite à observer si une relation survit lorsque le prestige, le pouvoir ou les ressources disparaissent. Elle impose aussi de ne pas choisir un proche pour son seul réseau, sa protection ou son influence. Dans le contexte romain, où les liens personnels pouvaient favoriser les ambitions politiques, cette mise en garde est particulièrement significative. Le traité valorise une affection libre qui ne dépend pas de la rentabilité de autres. Par là, il établit une exigence toujours utile pour distinguer solidarité réciproque et simple échange intéressé. Troisièmement, la franchise loyale contre la flatterie et les faux-semblants. Une part importante du traité porte sur la parole entre amis. Cicéron considère la franchise comme indispensable, car une relation incapable de supporter la vérité est déjà menacée par le mensonge. Dire ce qui doit être entendu demande toutefois du tact et une intention bienveillante. La liberté de parole ne justifie ni dureté gratuite ni humiliation. Elle vise le bien de l'ami, tandis que la réception du conseil exige de savoir écouter sans ressentiment immédiat. Face à cette exigence, la flatterie représente les dangers majeurs. Le flatteur imite les apparences de affection, approuve tout, confirme les erreurs et cherche son propre avantage sous le masque de la complaisance. Il est plus difficile à déceler qu'un adversaire déclaré parce que son discours répond au désir humain d'être admiré. Cicéron relie donc la qualité de l'amitié à une discipline du jugement. Il faut préférer la critique honnête à une approbation séduisante mais corrompue. Cette analyse ne présente pas la sincérité comme une spontanéité absolue. Elle la situe dans une réciprocité exigeante où chacun peut conseiller, être corrigé et conserver son estime. Le dialogue montre ainsi que la confiance ne consiste pas à éviter tout désaccord, elle consiste à rendre le désaccord possible sans transformer la relation en rapport de domination ou en rupture. Quatrièmement, choisir lentement ses amis et éprouver la constance des caractères. Cicéron recommande de ne pas donner trop vite le nom de ami. Ce conseil répond à une difficulté structurelle, une amitié profonde suppose confiance et ouverture, mais ces biens ne doivent pas être accordés sans connaissance du caractère de l'autre. Le texte valorise donc une progression prudente fondée sur observation de la conduite, de la stabilité et de la manière dont une personne réagit au revers, comme au succès. La prospérité peut révéler orgueil et mépris, tandis que l'adversité peut révéler abandon, faiblesse ou fidélité. Cette attention aux épreuves ne conduit pas au soupçon permanent. Elle cherche à protéger une relation qui, une fois établie, mérite une grande constance. Cicéron préfère clairement le petit nombre de liens solides à une multiplication de relations superficielles. Son analyse porte aussi sur la fin possible de l'amitié. Lorsque les caractères changent profondément ou que les exigences morales deviennent incompatibles, la séparation peut être nécessaire. Elle doit pourtant éviter hostilité inutile et conserver, si possible, dignité et mémoire des services rendus. Le traité ne confond donc pas fidélité et obstination. Il propose une prudence en amont, puis une loyauté ferme dans la durée. Cette combinaison éclaire les tensions réelles entre confiance, lucidité et protection de l'intégrité morale. En dernier lieu, à un idéal privé qui sert aussi la mémoire de la République romaine, l'amitié ne peut être séparée du moment historique de sa rédaction. Cicéron écrit après assassinat de César, alors que la République romaine traverse une crise décisive. En plaçant son dialogue dans un passé républicain et en faisant parler des figures associées à Scipion Émilien, il ne se détourne pas simplement de l'actualité. Il propose un horizon moral pour penser le présent. Les relations entre hommes de valeur deviennent le modèle d'une communauté politique fondée sur confiance, devoir et recherche du bien commun. Cette dimension ne signifie pas que le traité traite seulement de alliances de partis. Le lien personnel et affectif y possède une réalité propre, mais Cicéron montre que les habitudes acquises entre amis ont des effets civiques. Une personne, habituée à la droiture, à la franchise et au refus des demandes injustes, sera moins disposée à servir une ambition destructrice. Inversement, les clientèles opportunistes, la complaisance et les solidarités sans principe fragilisent la cité. Le dialogue unit ainsi héritage grec et expérience romaine. Il emprunte au débat philosophique sur la vertu et le bonheur, tout en donnant à ces questions une portée institutionnelle et historique. Cette articulation distingue le texte d'une simple méditation morale-amitié et devient une école de responsabilité pour la vie commune. En conclusion, ce texte conviendra aux lecteurs de philosophie antique, de littérature latine et histoire romaine, mais aussi à toute personne qui souhaite examiner avec précision les critères d'une relation fidèle. Sa brièveté le rend accessible, tandis que sa forme dialoguée évite la sécheresse d'un exposé systématique. La présente édition français-latin présente un intérêt particulier pour les étudiants, les lecteurs de Cicéron et les amateurs de traduction, car elle rend visible le travail de passage entre la prose latine et le français. Sur le plan intellectuel, le livre permet de clarifier plusieurs distinctions utiles affection et intérêt, franchise et brutalité, fidélité et complaisance, soutien personnel et devoir civique. Il ne fournit pas de recettes psychologiques modernes, ni une théorie empirique des relations. Son apport réside dans la cohérence d'un idéal moral qui oblige à interroger la qualité de nos engagements. Comparé à de nombreux textes contemporains sur les liens sociaux, il se distingue par le refus de réduire amitié au bien-être individuel, à la communication efficace ou aux bénéfices mutuels. Comparé aux autres traités anciens, il se singularise aussi par son ancrage romain, les vertus privées, y sont pensées dans leur rapport avec la cité en crise. Certaines exigences peuvent paraître idéalistes, notamment la place très haute accordée à la vertu, mais cette radicalité fait de l'amitié un classique durable, capable de nourrir une lecture critique, plutôt qu'une adhésion passive. Si vous souhaitez soutenir Cicéron, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.